France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Le procès en appel de Christophe Glaize en Algérie prend une mauvaise tournure ce soir. Le parquet de Tizi Ouzou réclame 10 ans de prison à l'encontre du journaliste. Le jugement devrait tomber dans la soirée. Nous ferons le point avec Valérie Crova dans un instant. L'université Lyon 2 suspend Julien Théry, l'enseignant accusé d'antisémitisme après avoir relayé la caricature d'un juif voleur. En septembre, Julien Théry avait publié une liste de personnalités qualifiées de génocidaires à boycotter de toute urgence. Le TFA, un polluant éternel présent dans 92% des eaux en France, selon une étude de l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, a effectué des centaines de prélèvements dans les rivières ou bien dans l'eau du robinet. Sébastien Lecornu refuse de recourir au 49.3 pour faire adopter les textes budgétaires. Le Premier ministre l'a répété tout à l'heure à l'Assemblée, alors que beaucoup à droite lui demandent d'engager la responsabilité de son gouvernement pour sortir de l'impasse. C'est le seul journaliste français détenu à l'étranger. Christophe Glaize, comparé actuellement devant la cour d'appel de Tizi Ouzou en Algérie. Il avait été condamné en première instance à 7 ans de prison et le parquet a réclamé tout à l'heure une peine encore plus lourde de 10 ans de prison. Il est reproché à Christophe Glaize d'avoir rencontré le responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, par ailleurs président d'un club de football. Rappelons que le journaliste est un collaborateur régulier du magazine SoFoot. Valérie Crova, Christophe Glaize a demandé la clémence du tribunal, mais les réquisitions du parquet ne vont pas du tout dans ce sens.
Des sanglots dans la voix, Christophe Glaize a plaidé sa cause devant le tribunal de Tizi Ouzou. « Ma seule douleur est celle d'être coupé de ma famille », a-t-il confié. Il a demandé pardon et a admis avoir commis des erreurs, malgré ses bonnes intentions, mais rien n'y a fait. L'accusé n'est pas venu en Algérie pour accomplir un travail journalistique, mais pour commettre un acte hostile, a estimé le procureur du tribunal de Tizi Ouzou pour justifier les 10 ans de prison requis en appel. À la barre, Christophe Glaize a fait son mea culpa. Il a reconnu qu'il aurait dû demander un visa de journaliste à la place d'un visa de tourisme pour venir en reportage en Algérie et qu'il aurait dû être au courant que certains de ses contacts étaient reliés à une organisation classée terroriste en Algérie. C'est notamment pour cette raison qu'il a été arrêté en 2024 après avoir eu des échanges avec un dirigeant de la jeunesse sportive de Kabylie, une institution du foot algérien. Il se trouve que le dirigeant de ce club était également l'un des responsables du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classé terroriste par les autorités algériennes en 2021. Le journaliste sportif a expliqué qu'il ne le savait pas. On attend désormais le jugement définitif.
Merci Valérie Crova de la rédaction internationale de Radio France. Jugement définitif qui normalement doit tomber d'ici ce soir. C'est une décision rare dans le monde académique. L'université Lyon 2 a décidé de suspendre l'un de ses enseignants, Julien Théry, accusé d'antisémitisme. Ce professeur d'histoire médiévale avait suscité la polémique fin septembre en publiant une liste, je cite, de 20 génocidaires à boycotter en toutes circonstances. Une liste noire où l'on trouvait entre autres l'actrice Charlotte Gainsbourg, l'animateur Arthur, les philosophes Raphaël Enthoven et Pascal Bruckner ou le politologue Dominique Régnier. Leur faute, avoir publié une tribune demandant à Emmanuel Macron de poser deux conditions avant de reconnaître l'État de Palestine, la libération de tous les otages à Gaza et le démantèlement du Hamas. Mais si Julien Théry est aujourd'hui suspendu, c'est en raison d'un nouvel élément, la découverte d'une caricature antisémite montrant un juif voleur qu'il a posté sur les réseaux sociaux. Une suspension très commentée sur le site universitaire de Lyon 2 à Bron, dans la banlieue lyonnaise. C'est un reportage de Mathieu Bonnour.
Sur les murs de certains bâtiments, il y a ces tags « Free Palestine » ou « Free Gaza », signe de l'engagement à gauche bien connu de ce campus. Certains étudiants en histoire ont eu cet enseignant en cours, comme Floyd.
Je le connais aussi comme personnalité de Lyon 2.
Cet étudiant en master dénonce un climat tendu. Pour lui, cette liste n'est pas un problème et surtout, ça ne devrait pas entraîner une sanction aussi forte.
Que des gens puissent être suspendus pour leur soutien à la Palestine, ça me pose problème. Parce que ça veut dire que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous en fait, qui soutenons la Palestine et qui sommes contre le génocide à Gaza. Quoi.
Au contraire, cette suspension est saluée par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme en Auvergne-Rhône-Alpes, qui avait saisi l'université sur ce sujet. Le président de la branche régionale, Jean-Pierre Biscara, est encore plus consterné parce que ce sont les propos d'un professeur d'histoire.
Je ne comprends pas que quelqu'un qui maîtrise aussi bien les concepts et le sens des mots puisse traiter Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal de génocidaires. Il les met au même niveau que, puisqu'on est à Lyon, que Klaus Barbie, le responsable de la Gestapo à Lyon. Et ça, c'est quand même consternant.
Il attend une sanction de la commission disciplinaire qui doit se réunir bientôt pour étudier ce cas. Dans son communiqué, l'université n'avance pas de date précise pour l'instant.
Voilà pour ce reportage à Lyon de Mathieu Bonnour. Au Proche-Orient, la confusion règne ce soir sur une possible réouverture du poste frontière de Rafah dans la bande de Gaza. Le point de passage vers l'Égypte pour les Gazaouis. Une réouverture dans les prochains jours, avait annoncé ce matin Israël en évoquant une opération en coordination avec les autorités égyptiennes. Mais le Caire a immédiatement contredit les responsables israéliens, Alice Moreno.
L'Égypte dément tout travail de coordination avec les autorités israéliennes pour l'ouverture du point de passage de Rafah dans les prochains jours. C'est la réponse qu'a formulée l'organisme général de l'information égyptien qui précise que si un accord devait être conclu, il devra fonctionner dans les deux sens pour l'entrée et la sortie du territoire de Gaza. L'Égypte semble donc poser à minima cette condition et rappelle que le côté égyptien du poste frontière est toujours demeuré ouvert, se dédouanant ainsi de toute responsabilité. C'est l'armée israélienne qui a pris le contrôle du corridor de Philadelphie en mai 2024, situé entre Gaza et le Sinaï, qui a rendu impossible la traversée des Palestiniens vers l'Égypte. Mais dans les faits, l'Égypte ne tient pas à voir une arrivée massive de Palestiniens sur son sol. Le président Abdel Fattah al-Sissi l'a martelé depuis octobre 2023 et les quelques 110 000 Palestiniens qui sont parvenus à fuir vers l'Égypte depuis le début de l'offensive israélienne ont dû payer pour fuir les bombes 5 000 $ chacun versé à une agence de voyage appartenant à un homme d'affaires proche du pouvoir égyptien. Ce système a toujours été démenti par le gouvernement, mais c'est le récit que font tous les Gazaouis arrivés au Caire. Une fois arrivés en Égypte, les Palestiniens n'ont pas accès au statut de résident et donc à leurs droits, leur présence étant simplement tolérée par les autorités.
Alice Moreno, correspondante pour France Culture en Égypte. Israël a annoncé aujourd'hui avoir reçu la dépouille d'un otage par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge. L'armée israélienne a ensuite précisé que le cercueil était en route vers l'Institut national de médecine légale à Tel Aviv pour une autopsie devant permettre d'identifier cette dépouille. La branche armée du Hamas avait annoncé plus tôt qu'elle restituerait avec son allié du djihad islamique le corps d'un otage israélien. Face à la menace russe, l'Allemagne met en service sa toute nouvelle unité anti-drone. Il s'agit de répliquer aux nombreuses incursions de drones observées ces dernières semaines dans le ciel allemand. Les services secrets soupçonnent la Russie d'être à la manœuvre dans le cadre de sa guerre hybride contre les Européens. On retrouve à Berlin Sébastien Baer, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Sébastien, correspondant de France Culture en Allemagne, confronté à une menace qui semble s'intensifier, les autorités allemandes ont donc décidé de déployer les grands moyens.
Oui, Stanislas, l'Allemagne veut envoyer un message. Elle n'est pas impuissante face aux attaques de drones. Les autorités disposent maintenant de la riposte en cas de menace contre un aéroport, un site industriel ou un grand rassemblement. L'unité va compter à terme 130 membres. Ils seront déployés dans toute l'Allemagne en fonction des besoins pour pouvoir intervenir rapidement en cas d'urgence. Et ils disposeront d'un large arsenal, des filets pour capturer les drones, des radars, des systèmes de brouillage et des drones intercepteurs. En dernier recours, quand les autres dispositifs n'auront pas suffi à écarter le danger. Police et armée pourront aussi abattre les appareils. Les autorités ont donné leur feu vert au début du mois d'octobre. Ces dernières semaines, des drones ont perturbé à plusieurs reprises le trafic aérien à Munich et Francfort, les deux plus grands aéroports, et à Karlsruhe. Certains engins ont aussi survolé des villes, des bases militaires et des installations de l'OTAN. Au total, l'État s'apprête à débloquer cette année et l'année prochaine 100 millions d'euros pour acheter du matériel de défense. Berlin a demandé conseil à l'Ukraine et à Israël, qui ont beaucoup plus d'expertise en la matière. L'accent sera aussi mis sur la recherche, car les technologies, Stanislas, évoluent vite et peuvent être dépassées en l'espace de quelques semaines.
Merci Sébastien Baer, en direct de Berlin. Les négociations sur le plan de paix américain sur l'Ukraine n'ont pas progressé hier soir à Moscou. Vladimir Poutine a rencontré l'émissaire américain Steve Witkoff, l'occasion pour le président russe de se montrer une nouvelle fois inflexible. Aucun compromis n'a été trouvé sur la question des territoires ukrainiens revendiqués par la Russie et que Kiev refuse d'abandonner. Moscou affirme même aujourd'hui que ses récents succès militaires auraient une influence sur les négociations en cours. L'armée russe revendique la prise de la ville stratégique de Pokrovsk, information démentie par l'Ukraine. L'ONG Human Rights Watch demande toute la lumière sur la mort en détention d'un opposant camerounais. Anissé Ekané avait été arrêté fin octobre, à la veille de la réélection contestée du président Paul Biya, reconduit pour un huitième mandat. Il avait apporté son soutien à l'adversaire de Biya, Issa Tchiroma Bakary, qui avait revendiqué la victoire à la présidentielle. Anissé Ekané, figure de la gauche nationaliste camerounaise, est mort lundi en prison à Yaoundé. Il avait 74 ans. Nathanaël Charbonnier, Human Rights Watch, rappelle que ce décès est loin d'être un cas isolé au Cameroun.
Anissé Ekané n'est pas le seul à avoir trouvé la mort dans les prisons camerounaises. L'ONG rappelle aussi le cas en janvier dernier d'Abdoul N. Danjouma, lui aussi décédé 24 heures après avoir été arrêté par les autorités. Elle souligne également les arrestations en grand nombre de militants de l'opposition avant l'élection présidentielle. Le cas d'Anissé Ekané s'inscrit dans ce contexte, d'où cette demande qu'une enquête indépendante soit réalisée pour comprendre les raisons de cette mort en détention, explique Ilaria Allegrozzi de Human Rights Watch.
Nous demandons que la lumière soit faite, que les responsabilités soient clairement établies. Pour nous, de façon plus large, le cas de Anissé Ekané illustre un problème systémique, le risque pour toutes les personnes détenues de subir une détention arbitraire, des mauvais traitements ou des conditions de détention inhumaines, dégradantes, dangereuses.
Human Rights qui accuse et le pouvoir qui anticipe. Le ministère de la Défense camerounais nie toute négligence et explique qu'une enquête a été demandée dans cette affaire par le président Biya. On notera également l'inquiétude de l'Union européenne avant même la mort de l'opposant. Elle avait souligné le 28 octobre dernier la nécessité de lutter contre les violations des droits de l'homme au Cameroun.
Nathanaël Charbonnier, l'ACAT France, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, exprime elle aussi sa profonde préoccupation après la mort d'Anissé Ekané. L'ONG demande une enquête indépendante pour établir les circonstances de ce décès. Ce sont des chiffres officiels et ils ne sont pas rassurants. Le TFA, un polluant éternel de la famille des PFAS, est présent dans 92% des eaux en France. Un chiffre issu des prélèvements effectués par l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, dans les rivières et les lacs, mais aussi dans l'eau du robinet. Véronique Robérotte, c'est la première fois que l'État propose une étude aussi fouillée sur le TFA, l'acide trifluoroacétique.
Pour son étude, l'ANSES a mesuré la concentration dans les eaux de 35 PFAS différents. Le plus fréquent, le TFA, est donc partout ou presque dans 92% des 627 prélèvements d'eau distribués au robinet. L'ANSES indique toutefois que les concentrations de TFA sont inférieures à la valeur sanitaire indicative retenue par le ministère de la Santé dans l'attente d'une clarification de la réglementation européenne. En tant que PFAS à chaîne courte, avec peu d'atomes de carbone et une molécule très petite, le TFA est extrêmement difficile à extraire lors du traitement de l'eau et pratiquement indestructible. Persistant dans l'environnement mobile, ce polluant éternel est capable de contaminer largement toute la chaîne alimentaire, solide comme liquide, et les organismes. Les plus fortes teneurs ont été retrouvées dans un échantillon d'eau provenant d'une usine d'eau potable située en aval d'une usine produisant du TFA, ce qui prouve que les traitements sont aujourd'hui inefficaces. Le TFA est issu de multiples sources industrielles, entre autres la décomposition dans l'atmosphère de gaz fluorés employés dans la réfrigération, mais aussi de l'épandage de pesticides PFAS qui contaminent les eaux souterraines en zone agricole. À mesure qu'il s'accumule dans l'environnement, le TFA devient de plus en plus menaçant en termes de santé publique. Il est sur le point d'être classé toxique pour la reproduction dans l'Union européenne, car faisant courir des risques de malformation de fœtus, il présente également des indices de toxicité pour le foie.
Merci Véronique Robérotte, spécialiste environnement à la rédaction de France Culture. Sébastien Lecornu sera-t-il obligé de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour sortir de l'impasse budgétaire avant Noël? Le Premier ministre s'était engagé à ne pas le faire, mais les débats s'enlisent à l'Assemblée et l'exécutif n'est pas du tout assuré d'avoir une majorité pour faire adopter le budget de la Sécurité sociale mardi prochain 9 décembre. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Stanislas.
De plus en plus de voix s'élèvent, et notamment à droite, pour demander à Sébastien Lecornu d'engager la responsabilité de son gouvernement.
Et de recourir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Ce matin, c'est le président du Parti Les Républicains, Bruno Retailleau, qui s'est exprimé en ce sens chez nos confrères de Sud Radio.
On ne peut pas voter un budget à tout prix. 49.3, il faut l'assumer. Je suis persuadé que jamais les socialistes ne voteraient une censure.
Hier, Édouard Philippe a indiqué que les 34 députés du groupe Horizon à l'Assemblée ne pouvaient pas, à ce stade, voter le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, laissant lui aussi entendre que l'usage du 49.3 serait la moins mauvaise des solutions. Et c'est aussi ce que pensent de plus en plus de députés. Au Modem, chez Renaissance, même quelques députés au sein du groupe socialiste commencent à se ranger à cette idée. Pourtant, il n'est pas question d'y recourir, a dit ce matin la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, sur BFM TV.
Nous, vous savez, on a 1049.3 de côté, on s'est engagé à ne pas l'utiliser, nous ne l'utiliserons pas.
C'est aussi ce qu'a indiqué le Premier ministre Sébastien Lecornu cet après-midi depuis les bancs de l'Assemblée nationale.
Je le redis, il n'y aura pas d'utilisation du 49 alinéa 3 de la Constitution et d'engagement de la responsabilité du gouvernement. Et donc, moi je me tiens à disposition de l'ensemble des groupes, j'en ai reçu un certain nombre la semaine dernière, je vais continuer de le faire tout au long de cette semaine, mais je tiens quand même à lancer cette première alerte au moment du débat. Ça sera à la fin le projet de loi de finances pour la sécurité sociale d'aucun groupe politique, ça sera un PLFSS de compromis et de transition vers 2027, on le sait tous, et donc cet esprit est de compromis et de synthèse qui permet d'avoir un déficit de la Sécu qui soit tenu et acceptable pour l'année prochaine, il démarre dès cet après-midi. Je vous remercie.
La difficulté, c'est que le Premier ministre peut difficilement revenir sur sa promesse de ne pas utiliser le 49.3. Il essaie donc de forcer l'émergence d'un compromis. En face, les partis politiques soit sont dans des postures, des jeux de postures, et tentent de faire pression sur leurs adversaires. Soit ils pensent à la présidentielle de 2027 et au fait qu'à ce moment-là, ils auront du mal à justifier les concessions qu'on leur demande de faire aujourd'hui. Et donc on en est là, avec à ce stade une majorité introuvable et une impossibilité d'utiliser le seul outil qui permettrait de débloquer la situation. Le 49.3.
Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Malgré l'incertitude politique, les partenaires sociaux ont engagé aujourd'hui une nouvelle négociation. Elle concerne le recours aux ruptures conventionnelles, un dispositif créé en 2008 qui connaît depuis un franc succès, 525 000 ruptures signées l'an dernier pour un coût de 9 milliards d'euros, soit 26% des dépenses de l'assurance chômage. On l'a compris, l'enjeu de la négociation, c'est de réduire la facture, alors que le nombre de ruptures conventionnelles ne cesse d'augmenter. Problème, syndicats et patronats ne sont pas d'accord sur le constat de départ, ni sur les objectifs à atteindre, à tel point qu'Amélie Magnard, que deux organisations patronales sur trois, n'étaient pas présentes ce matin à la table de l'UNEDIC.
MEDEF et UDP absents, eux qui, avec la CPME, avaient écrit hier soir au Premier ministre pour lui annoncer leur objectif de faire 1 milliard d'euros d'économies par an sur les dépenses de l'assurance chômage. Sébastien Lecornu, lui, avait fixé l'objectif à 400 millions et surtout il s'était dit prêt à renoncer à une énième réforme des règles de l'assurance chômage, à condition que les partenaires sociaux se mettent d'accord d'ici fin janvier, à minima donc, sur les ruptures conventionnelles. Le dispositif, selon une étude récente de l'Institut des politiques publiques, serait utilisée dans 80% des cas par des salariés qui, avant 2008, auraient simplement démissionné et n'auraient pas eu le droit au chômage. Avec la rupture conventionnelle, ils peuvent faire valoir leurs droits, le temps de retrouver du travail, et c'est bien sur ce point que devraient porter les négociations. Avec, parmi les pistes d'économie, une période de carence plus longue entre la rupture conventionnelle et l'accès à l'allocation chômage. Une autre piste pour dissuader les ruptures abusives serait d'augmenter la part patronale dans l'indemnité versée aux salariés, car dans 12% des cas au moins, les ruptures conventionnelles seraient en fait des licenciements déguisés à l'avantage de l'employeur. Alors si côté patronat, l'UDP participera bien, comme la CPME, au prochain round de négociations, pour le moment, le MEDEF, lui, maintient le doute. Et le gouvernement Lecornu a prévenu, s'il n'y a pas d'accord dans moins de 2 mois, alors il mènera la réforme comme il l'entend, et ça devrait coûter plus cher encore aux bénéficiaires de l'assurance chômage. images.
Un décryptage signé Camille Magnard. Le conseil départemental de Savoie a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre sa participation aux réunions de préparation des Jeux Olympiques d'hiver de 2030 qui doivent se dérouler dans les Alpes françaises. Le conseil départemental refuse notamment d'être une variable d'ajustement budgétaire, il le dit dans un courrier aux organisateurs de ces Jeux d'hiver obtenus par l'agence France Presse datée du 1er décembre. Cette lettre rendue publique par le Dauphiné Libéré, signée par Hervé Guémard, le président du conseil départemental de Savoie, est adressée à Edgar Gros-Piron, le président du comité d'organisation des JO 2030, et une copie a été adressée à la ministre des Sports, Marina Ferrari. Un mot du temps demain, une nouvelle perturbation arrive par l'ouest en matinée. Elle s'étendra de l'Aquitaine à la Normandie. À l'est, les brouillards matinaux seront nombreux avant des éclaircies. Les températures minimales seront comprises entre 2 et 11 degrés en général. L'après-midi, il fera de 5 à 16 degrés du nord-est à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec l'Agdar Olivier Benmalek à la technique d'Ali Yaha.